Chomsky, Lemmy and Motorhead, like Joey Ramone, it's known, and the Senate's SG, Chomsky, Chuck Public Enemy, a hero from a galaxy, freedom knows no boundary, a total intellectual, a neglected intellectual, it's known, Chomsky, 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 what's happening?
Papa.
He doesn't know what's happening.
Papa.
He doesn't know what's going on.
Sometimes.
They pay for the weapons.
Okay.
They buy the yellow ribbon.
Hey, no.
Teach the nation.
Hey, no.
Teach the children.
We feel
what you're here for.
Explode.
A world of murder.
And how?
No, no, no.
Chomsky, 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 Chomsky,
no, no, no.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire, donc 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir, donc pour notre soirée du jeudi, les deux jeudis par mois. Vous venez d'écouter un morceau de The Horses qui s'intitule, si vous comprenez un petit peu l'anglais, vous avez pu entendre Noam Chomsky. C'est un groupe d'Austin, au Texas, aux États-Unis. C'est un morceau qui date de 1994 et que notre facétieux technicien José a choisi pour illustrer l'émission de ce soir, qui va être essentiellement assurée par Jean Mathias, présent en face de moi, et consacrée à un débat qui avait eu lieu il y a de nombreuses années entre Foucault et Chomsky. Un débat qui a été filmé, que vous pourrez éventuellement voir si vous êtes curieux. Et voilà, donc Chomsky, Foucault, le débat, la querelle. Donc, vous pouvez trouver aussi, indépendamment des images, ça a été édité chez Aden. Ça s'intitule, donc, c'est Noam Chomsky et Michel Foucault, ça s'intitule Sur la nature humaine, comprendre le pouvoir. Donc, alors, c'est sans doute un débat assez intéressant entre deux poids lourds, on pourrait dire, du XXe siècle, de la philosophie politique, mais pas que, parce que Chomsky a d'autres cordes à son arc. Et c'est aussi, c'est plus que ça, parce que c'est aussi deux styles de pensée qui s'affrontent. De style très très différent, puisque Chomsky quand même tient un certain réalisme, c'est-à-dire qu'il pense que en gros quand même nos discours, nos idées sont normées par ce qui est à l'extérieur, et avec Foucault qui a un point de vue là-dessus beaucoup plus flou, parce qu'il se prononce jamais vraiment et il esquive souvent la question, mais qu'on a pu souvent assimiler à une forme d'historicisme, c'est-à-dire que pour Foucault il n'y a pas de vérité indépendamment d'un certain contexte. Et donc, le rapport à la réalité n'est jamais pris en compte, finalement, chez Foucault. Et alors, ça peut sembler un peu abstrait, je m'en excuse, mais je pense que c'est pas sans influence sur sur la théorie politique qui en découle, ou sur l'absence de théorie politique qui en découle, parce que là aussi, vous avez une énorme différence entre les deux, c'est que Chomsky, finalement, ne se prétend pas du tout théoricien politique. Il affirme même qu'on peut pas faire de théorie politique qui soit intéressante, et que n'importe qui pourrait faire le travail qu'il fait sur finalement sur les événements qui traversent le monde et la façon de les expliquer. Donc pour lui, et en plus, alors là aussi un truc très intéressant, c'est que Chomsky ne travaille pas du tout à partir de sources cachées ou secrètes, il travaille essentiellement à partir de toutes les dépêches d'agences de presse qu'on peut trouver, qui lui permettent de réunir un matériel assez impressionnant et assez décapant finalement. Alors voilà deux, trois mots d'introduction. Donc maintenant je vais laisser celui qui a lu le bouquin en question parler.
Je te remercie Michel. Je te remercie bien. Ouais, non, ben t'as déjà commencé à dire un certain nombre de choses. En fait, l'envie qu'on avait là de parler sur ce petit bouquin, donc sur la nature humaine aux éditions Aden, là qui a été édité en 2006. Donc ça c'est déjà sorti il y a quelques temps. Donc c'est un texte qui reprend, bah, comme tu l'as dit, un des rares, et à ma connaissance le seul, entretien et rencontre directe qu'il y a eu entre, en fait, deux poids lourds, effectivement, de la vie intellectuelle du XXe siècle, mais surtout deux penseurs anarchistes, revendiqués comme tels, et qui servent bien souvent de référence à beaucoup de libertaires, à beaucoup de militants.
Je suis pas sûr qu'on puisse dire que Foucault se revendique anarchiste.
Écoute, c'est ce qu'il dit dans ce texte-là.
Ah oui,
c'est ce qu'il dit dans ce texte-là, comme effectivement un intellectuel effectivement critique, attentif à tous les réseaux, toutes les structures de pouvoir qui peuvent traverser les sociétés au cours de l'histoire. Donc, si tu veux, moi, ce qui me semble intéressant dans ce texte-là, là, donc que vous pouvez trouver en ligne, donc en anglais mais sous-titré, hein, à ma connaissance, c'est qu'on a à mon sens, clairement deux positions très différentes, qui se revendiquent toutes les deux de la pensée libertaire, et qui, à mon avis, indiquent vraiment une ligne de débat très intéressante à l'intérieur de la pensée anarchiste, entre d'une part donc celle de Foucault, qui est en fait qui se veut un espèce de penseur plus historien que philosophe en réalité.
On peut le présenter peut-être un petit peu.
Ouais, alors Foucault, donc bah oui, donc intellectuel. Absolument. Des années 60-70. Professeur au Collège de France, qui a commencé à travailler sur les systèmes de dans son fameux livre Surveiller et punir, donc sur une histoire de la prison et de l'enfermement, et puis ensuite avec tout un tas de livres qui ont fait date sur l'histoire de la folie, histoire de la sexualité.
C'était avant. Ouais. C'était en 60. Le Surveiller et punir, c'est 73, 71, ouais, c'est cela. Ouais. Et à l'origine aussi de la formation du groupe du
GIP, bien sûr.
Le groupe de formation sur les prisons, voilà. Où on essayait justement donner la parole aux prisonniers et pas de prendre la parole pour les prisonniers.
Tout à fait.
Ce qui était assez intéressant. Ouais. Donc c'était, oui, c'est quelqu'un d'emblématique et qui continue d'inspirer énormément le nombre de gens qui essaient de réfléchir sur les structures de pouvoir actuelles.
Tout à fait. Et notamment dans les sciences humaines, chez les historiens, etc. Bon, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé, en fait, à tous les documents et toutes les traditions un petit peu hétérodoxes ou négligées, hein, de manière à essayer de restituer, en fait, les cadres de pensée, les grilles d'analyse, et au fond les cadres historiques dans lesquels se sont construits des discours sur la connaissance, sur la nature, sur la folie, la normalité, etc. Donc c'est
les discours et les institutions de pouvoir qui leur sécurité
annexe qui allait avec.
C'est-à-dire que la prison, c'est aussi une institution. Tout à fait. Il faut essayer de montrer comment il est né, quand il est né, à partir de quel discours. Et finalement, le côté un peu surprenant de la naissance de la prison à ce moment-là, parce que on n'avait pas tendance à enfermer les gens avant.
Tout à fait. Et du coup, c'est aussi quelqu'un qui a eu un engagement politique, tu l'as rappelé là, avec le GIP notamment, donc autour du groupement Information Prison, et qui a eu un certain nombre de positionnements au cours des années 70. C'est pas un gauchiste standard, c'est-à-dire que effectivement il s'est beaucoup positionné sur des sujets sociétaux au sens large, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'était effectivement plus des positionnements de cet ordre-là, mais pas seulement, il y a eu aussi des positionnements de Foucault assez proches finalement de ceux qui ont été assumés par les Mao des années 70. Il y a eu des positionnements aussi assez malheureux sur la révolution iranienne, qui a été applaudi des deux mains par Foucault. Donc c'est aussi quelqu'un qui a eu un engagement politique et dont la voix a compté, et notamment en France, dans les milieux activistes d'inspiration libertaire, c'est aussi Foucault est aussi une des références par exemple des fondateurs d'ACT UP en France, c'est aussi avec des discours sur la maladie. Donc ça c'est la version, ça c'est le versant Foucault, j'ai envie de dire. Et donc en face on a Noam Chomsky, donc qui est aussi mondialement connu, donc qui est linguiste de formation, qui est un linguiste renommé du XXe siècle. Là je dirais deux mots sur ses travaux parce que c'est un lien, quoique indirect, avec ses conceptions politiques. Noam Chomsky, qui est donc à la fois un linguiste de renommée internationale, sans doute un des plus grands linguistes du XXe siècle, et aussi un militant politique de premier ordre, si on peut dire ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a participé très activement au mouvement des droits civiques dans les années 70 aux États-Unis, très engagé contre la guerre au Vietnam, contre l'impérialisme en général, et qui, est depuis quelques années dans une espèce de tournée mondiale permanente, aux quatre coins du monde, sur des thèmes qui sont ceux de la critique de la mondialisation, de l'impérialisme et du pouvoir en général, avec une référence qui est, alors pour le coup, explicite chez Chomsky à l'anarcho-syndicalisme, en particulier l'anarcho-syndicalisme américain, puisque à ma connaissance, au moins jusqu'à l'année dernière, Chomsky était toujours membre des Internal Workers of the World, donc le syndicat anarcho-syndicaliste américain
industriel.
Oui.
C'est parce que International et Of the World, c'est redondant.
Donc les YWW, voilà, pour tout le monde. Donc effectivement, il est à ma connaissance toujours membre de
Industrial Worker of the World.
Voilà, du syndicat. Et c'est une référence qui est explicite chez lui. Et alors dans ce débat, en fait, il y a un face-à-face qui est intéressant parce qu'il est rare déjà, c'est-à-dire que beaucoup des intellectuels français de renom des années 70 ont esquivé assez soigneusement la confrontation avec des intellectuels anglo-saxons, donc ils ont souvent fait carrière ou ils ont souvent fait des voyages, des cycles de conférences aux États-Unis. Ça a été le cas de Foucault, de Deleuze, de Derrida ou de gens comme ça.
Le truc c'est qu'ils étaient reçus dans les universités, mais du côté littéraire.
Mais de fait,
et donc ils rencontraient pas les philosophes anglo-saxons en question, et il semble que les philosophes anglo-saxons n'aient pas spécialement envie de les rencontrer non plus.
Ça,
je crois qu'il y avait une ignorance mutuelle de deux traditions intellectuelles qui pouvaient pas se piffrer.
Et aussi, sûrement des barrières linguistiques aussi, sachant que Foucault en l'occurrence avoue de pratiquer très peu l'anglais, donc en l'occurrence il y a eu aussi un certain nombre de barrières linguistiques, mais là on les a tous les deux face à face. Et ça donne des choses très intéressantes, selon moi. Alors l'entretien il est partagé en deux parties. Il y a une partie qui est un petit peu plus philosophique générale, on va dire, et donc qui porte sur la question de la nature humaine, savoir si en quel sens on peut parler d'une nature humaine, d'un fond commun qui serait identique en chaque homme. C'est une idée à laquelle Chomsky tient particulièrement et qu'il relie lui à ses travaux de recherche en linguistique. Donc, s'il y a cette première partie, il y a une deuxième partie qui est plus directement politique. Donc, c'est un texte qui est très accessible, parce que c'est une discussion à bâton rompu, un entretien, il y a un animateur, il y a des questions d'intervenants de la salle. Donc, c'est vraiment un texte qui est très appréciable de ce point de vue-là, et qui dit beaucoup de choses, selon moi. Alors, en particulier, donc sur la première partie, celle qui est la plus philosophique, il y a donc toute une discussion autour de cette question de la nature humaine, puisque c'est aux yeux de Chomsky une notion qui est qui est très importante. La manière dont il conçoit ça, en fait, il part, pour comprendre cette notion de nature humaine, de ses travaux en linguistique et d'idées selon laquelle, au fond, le mystère qu'il y a dans l'apprentissage de toute langue chez l'être humain, c'est que, en réalité, à partir de l'apprentissage d'un nombre très réduit de règles, au départ, chaque individu est capable ensuite de créer, de s'approprier une langue qui est capable donc de développer une infinité de propositions, de phrases, d'idées, de descriptions. Et il y a quelque chose de profondément fascinant là-dedans, d'après Chomsky, c'est ce qu'il appelle, lui, donc son idée de grammaire générative. Donc, c'est-à-dire d'un ensemble de règles et de contraintes très réduites au départ, peut ensuite découler une infinité, voilà, de phrases, d'idées, de propositions, jusqu'aux théories les plus sophistiquées qu'on peut construire pour expliquer les phénomènes.
C'est-à-dire qu'à la base, c'est quelque chose de très banal. C'est-à-dire que vous pouvez prononcer des phrases que vous n'avez jamais prononcées et comprendre des phrases que vous n'avez jamais entendues.
Absolument.
Tout simplement. Et voilà. Ce qu'aucune machine, évidemment, par exemple, aucun programme n'est capable de faire.
Absolument.
Et donc là, Chomsky voit quelque chose de très intéressant et il va s'interroger justement sur comment est-ce qu'un enfant de 3 ans est capable de maîtriser quelque chose qui semble redoutablement complexe, finalement.
Tout à fait.
Donc, je pense qu'on peut résumer le truc comme ça.
Il y a quelque chose de cet ordre-là, et donc ce noyau, en quelque sorte, de schémas grammaticaux qui permet à chaque être humain ensuite d'apprendre et de pratiquer une langue dans toute sa complexité, c'est au fond le support qui constitue, d'après Chomsky, la nature humaine. Et ce support, pourquoi il est intéressant et pourquoi il a une influence indirecte sur ses conceptions politiques, c'est que au fond il est le signe, d'après Chomsky, d'une capacité de création fondamentale qui est ancrée dans la nature humaine et notamment dans la nature de chaque être parlant. Capacité à créer, c'est-à-dire à utiliser ces règles très réduites, ce nombre très réduit de règles de départ, pour ensuite développer et construire tout un langage jusqu'à des théories extrêmement sophistiquées. C'est donc cet aspect créateur-là qui paraît ancré, d'après Chomsky, dans la nature humaine elle-même.
Il y a un autre élément qui l'intéresse, je pense, dans l'idée d'une nature humaine. Il le dit clairement dans un autre bouquin, pas celui dont on vous parle ce soir, c'est que il estime que si on estime que l'homme est une espèce de pâte à modeler pure, qui va être dans laquelle il n'y a rien de donné, dans laquelle il n'y a rien d'inné, on pourrait être modelé à la guise de la société dans laquelle on est né.
Bien sûr.
Et il estime de ce point de vue-là que si on part de 2-3 points naturels chez l'homme, et il aurait tendance à assimiler la liberté, même s'il en parle assez peu, au langage, en disant que c'est pas seulement une capacité créatrice, c'est aussi une capacité de résistance.
Tout à fait.
Parce qu'il y a déjà, il y a du déjà donné.
Absolument.
Qui fait que, justement, on n'est pas d'une pure pâte à modeler, qu'un dictateur armé d'une propagande redoutable pourrait déformer à sa guise. Il y a quelque chose, déjà, qui peut résister.
Exactement, exactement. Et c'est sur cette base-là, effectivement, sur cette base qui est la nature humaine elle-même, que Chomsky va, d'une certaine manière, chercher à s'appuyer, ou en tout cas, il pense que c'est un point d'appui important pour effectivement exercer des résistances à toutes les tentatives qui vont être des tentatives de répression ou d'oppression de cette capacité créatrice qui est présente en chaque être humain. Et d'entrée de jeu, c'est un point sur lequel il va s'opposer évidemment à Foucault. Alors pourquoi il s'oppose à Foucault là-dessus, ou pourquoi Foucault s'oppose à Chomsky sur ce point-là? Parce que d'après Foucault, cette idée de nature humaine, c'est une fiction. C'est-à-dire que ce qui intéresse Foucault, c'est pas d'essayer de retrouver une sorte de noyau fondamental de règles à partir desquelles ensuite découleraient toutes les langues et toutes les théories les théories qui sont des formes de langage sophistiqué, formalisé, avec des règles explicites, etc. Mais c'est pas dans la recherche de ce noyau dur là qu'on trouvera quelque chose d'intéressant, d'après Foucault, mais plutôt, d'après lui, au fond, dans les grilles, des grilles de concepts, de représentations, d'idées, de mots, de catégories, qu'une société donnée à un moment donné institue de manière un petit peu collective, impersonnelle, en partie opaque d'ailleurs, institue et qui donne en quelque sorte la grille de compréhension du monde pour cette société-là à ce moment-là. Et d'une certaine manière, chez Foucault, il n'y a pas de solution de continuité d'une grille à l'autre, c'est-à-dire que chaque société ou chaque période historique, ou là-dessus c'est pareil, il n'y a pas de définition très claire de ces notions-là chez Foucault, mais on peut identifier en tout cas un certain nombre comme ça de grilles d'analyse qui évoluent au cours de l'histoire. Et qui donne en quelque sorte la grille. J'aime assez cette image-là, parce que la grille, c'est à la fois effectivement ce qui permet de caser, hein, les choses, les mots et les choses, hein, pour reprendre un titre de Foucault. Et en même temps, la grille, c'est aussi ce qui emprisonne, bien sûr. C'est-à-dire, c'est ce qui limite, hein, les capacités de penser, les capacités aussi d'exprimer, de dire les choses. Et c'est le lien, c'est là-dessus que repose le lien que Foucault fait entre ces grilles conceptuelles historiques là et les institutions de pouvoir qui s'appuient dessus et ces grilles et les institutions répressives s'appuient l'une sur l'autre en quelque sorte, hein. Mais il n'y a pas quelque chose comme une espèce de fond commun naturel qui permettrait aux hommes de résister. Il y a des grilles comme ça qui se succèdent et qui sont des institutions de pouvoir.
Bah, c'est-à-dire que, pour conclure brièvement sur ce point avant de vous passer un petit morceau de musique, Foucault est un sceptique. Il ne pense pas qu'on puisse trouver la vérité sur une réalité quelconque, une réalité humaine quelconque.
C'est soit un sceptique, soit un cynique.
Oui, les deux. Mais, et donc, il ne pense pas qu'on puisse trouver cette réalité. Et pour lui, ça n'a aucun intérêt de la chercher. Et donc, tout ce qu'il faut, c'est explorer les discours sur les êtres humains. Il n'y a pas de nature humaine, il n'y a que des discours sur la nature humaine. Donc on ne fait qu'en parler et la modeler en fonction de nos désirs politiques la plupart du temps de nos désirs oppressifs. Donc c'est ça, c'est un des gros trucs d'opposition avec Chomsky, qui pense qu'au contraire, lui, qu'on peut découvrir quelque chose de réel au sujet de l'humain. Donc voilà, un petit morceau de musique, c'est de Weaker Tans, et ça vous parle encore de Foucault, mais d'une façon un peu bizarre, je vous expliquerai après. Just one more drink and then I should be on my way home. You're talking about. I've had a really nice time, but my dogs need to be fed. I must say that in the right light, you look like Shackleton. Come on, darling, who says what you sweet? Come see, come south. Yes, a penguin taught me French back in. Show you the way. Shadows colonize snow. Ice breaking up on the bay, off the Lassiter coast. Light failing over the pole as every longitude leads up to your frostbitten feet. Oh, you're very sweet. Thank you for the flowers and the book by Derrida. You have a ship and a dozen able men that maybe you could lend me. Oh, Antarctica. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4. C'est Jeudi Noir qui continue. Donc, ce soir, nous vous parlons avec Jean-Mathias de Chomsky et Foucault, ou de Chomsky versus Foucault. Donc, dans leur unique et mémorable débat qui a eu lieu, je ne sais pas quand d'ailleurs.
71.
À
Eindhoven, en Hollande.
D'accord, en Hollande en plus. Donc c'est un débat que vous pouvez aussi trouver sur, je pense, sur Internet, sur les sites de diffusion vidéo. Et normalement, il est en anglais sous-titré.
Anglais sous-titré.
Donc c'est aussi intéressant de le voir comme ça. Et vous avez le bouquin qui a été publié chez ADEN.
En 2006,
et qui s'intitule donc Noam Chomsky et Michel Foucault sur la nature humaine, comprendre le pouvoir, interlude. Donc d'après Jean-Mathias, parce que j'ai pas lu ce livre-là, j'ai lu pas mal de trucs de Foucault et de Chomsky, mais pas celui-là. C'est un livre assez accessible et intéressant, qui vous expose finalement deux visions opposées d'une contestation du pouvoir de type libertaire. Parce que j'ai beaucoup de mal à dire que Foucault est anarchiste, au vu de son parcours, et quand on le connaît un petit peu dans le détail, ça me gêne. Parce que, bon, un type qui ne s'intéresse finalement qu'aux structures de pouvoir et qui n'arrive jamais, presque ou presque jamais, à parler de, même s'il dit qu'en réalité il en parle, des résistances à ce pouvoir, c'est gênant. Je le vois comme un technicien ou comme des technologies de pouvoir plutôt qu'autre chose, quoi. Mais un libertaire, j'ai du mal. Donc voilà, donc la musique que vous avez entendue, donc vous avez, c'était de Weaker Tans. Alors le titre anglais, c'est Our Retired Explorer Dines with Michel Foucault. Alors je vous explique ça rapidement, c'est un groupe de Winnipeg au Canada. Et la chanson raconte l'histoire d'un explorateur qui revient tout juste de l'Antarctique. Là, je vous lis la fiche que m'a faite José, très gentiment. Donc c'est l'histoire d'un explorateur qui se retrouve à dîner avec Foucault, qui lui offre un bouquin de Jacques Derrida, un autre grand philosophe français très connu. Et comme l'explorateur ne sait pas se dépêtrer de Michel Foucault, il voudrait juste aller dormir. Voilà, donc c'est une histoire tragique d'un explorateur qui revenait tout juste de l'Antarctique, pris au piège par Michel Foucault. Voilà, donc là, tu voulais nous parler de quoi plus précisément dans le bouquin, Jean-Pierre?
J'aimerais donner des petits coups de sonde un petit peu là dans le débat pour donner un peu aux auditeurs une idée des thèmes et puis de la manière dont ils sont abordés. Et par exemple, alors il y a un moment là dans le débat, donc autour de la page 50 là où ils discutent l'un l'autre, et ils présentent finalement chacun un petit peu leur programme et leur vision sur le plan politique, donc la manière dont ils se positionnent eux en termes politiques. Et alors c'est Chomsky qui ouvre le bal et qui au fond va expliquer à partir de ce qu'on discutait à l'instant là la manière dont finalement il analyse lui le capitalisme et les structures de pouvoir qui l'accompagnent, les deux étant pas complètement réductibles l'un à l'autre, finalement comme une sorte de système de répression globale qui s'oppose à quoi? Qui s'oppose précisément à ce qu'il appelle les pulsions créatrices qui sont inscrites dans la nature humaine. C'est-à-dire qu'au fond, le premier argument que Chomsky va opposer au capitalisme et aux institutions de pouvoir centralisées en général, c'est le fait qu'au fond, il s'agit d'institutions et d'un système économique qui sont contre nature. Donc le positionnement politique qui revendique consiste au fond à s'appuyer sur cette conception de la nature humaine pour montrer qu'on a affaire à des institutions et à un système politique qui est contre nature. Alors bon, il déploie ça de manière assez détaillée, donc en expliquant, par exemple, je cite, hein, donc toute forme de coercition, de répression, de contrôle autocratique d'un domaine de l'existence, comme par exemple la propriété privée d'un capital ou le contrôle de l'État, par l'État, de certains aspects de la vie humaine, toute restriction imposée à une entreprise humaine peut être justifiée si elle doit l'être uniquement en fonction d'un besoin de subsistance, d'une nécessité de survie ou de défense contre un sort horrible ou quelque chose de ce genre. Elle ne peut être justifiée intrinsèquement, il faut plutôt l'éliminer. Un peu plus loin, il explique...
En gros, tout ce qui ne sert pas à la survie, au bien-vivre et à la défense immédiate doit être éradiqué.
Doit être éradiqué parce que c'est des structures de pouvoir nocives, puisqu'elles sont contre nature.
Parasitaires,
exactement. Ouais. Il développe un peu plus loin en expliquant un système fédéré, décentralisé, de libres associations incorporant des institutions économiques et sociales constituerait ce que j'appelle l'anarcho-syndicalisme. Il me semble que c'est la forme appropriée d'organisation sociale pour une société technologique avancée, dans laquelle les êtres humains ne sont pas transformés en instruments, en rouages du mécanisme. Aucune nécessité sociale n'exige plus que les êtres humains soient traités comme des maillons de la chaîne de production. Nous devons vaincre cela par une société de liberté et de libre association où la pulsion créatrice inhérente à la nature humaine pourra se réaliser pleinement de la façon qu'elle le décidera. Alors, je fais juste ici une petite remarque parce que parfois, il y a un peu de bon ton en France, dans certains milieux, de ricaner un peu sur Foucault, sur le côté un peu naïf ou
Chomsky. Qualifier Foucault de naïf,
Mais justement, sur ce point-là, alors Chomsky est souvent présenté comme quelqu'un d'un peu naïf ou de gentil, selon certains, et quelqu'un qui, au fond, aurait un langage un peu transparent, un peu plat, et une manière un peu programmatique, etc., de poser les choses. À titre personnel, je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue-là, parce qu'il me semble que la langue de Foucault et son expression est claire, ça c'est vrai, et pour moi c'est une qualité, et elle est extrêmement rigoureuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas...
De Chomsky, t'es encore confondu.
De Chomsky, bon, décidément, je vais finir par... C'est des lapsus qui vont finir par devenir suspects. Donc l'expression de Chomsky, elle est claire, ce qui est une qualité pour moi, elle est extrêmement rigoureuse, au sens où il y a très peu d'angle mort, en fait, dans ses argumentations, c'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois qu'il avance un argument ou un élément de programme, alors bon, c'est pas un programmatiste avec une vision, une organisation sociale dans ses moindres détails.
C'est pas un plateformiste.
Non, c'est pas un plateformiste. Bon, il le dit d'ailleurs. Mais voilà, mais c'est un point juste, une petite remarque que je voulais faire, parce que c'est vrai que je suis un peu surpris et un peu agacé, il faut dire aussi, parfois, par cette espèce de ricanement qu'on a parfois en France et chez certains libertaires en particulier vis-à-vis de Chomsky, qui serait donc un peu naïf, un peu américain, vous savez, c'est un peu des 11 enfants, tout ça, ils maîtrisent pas bien. Alors bon, donc j'en viens maintenant donc à Foucault, donc cette fois sans lapsus,
qui explique... Foucault, t'es sûr ?
Foucault, je suis sûr. Et Foucault qui, lui, esquisse en quelque sorte son programme politique, si on peut appeler ça comme ça, enfin les enjeux politiques qui lui semblent importants, de la manière suivante, donc c'est un petit peu plus loin. Il explique, alors, l'une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, au-dessus de tout autre, c'est la suivante. Nous devons indiquer et montrer, même lorsqu'elles sont cachées, et peut-être même surtout quand elles sont cachées, si je peux me permettre d'ajouter, toutes les relations du pouvoir politique qui contrôle actuellement le corps social, l'opprime ou le réprime. Un petit peu plus loin, donc alors il détaille un peu, on sait cela, la famille, l'université, de façon générale tout le système scolaire, qui en apparence est fait pour distribuer le savoir, mais en fait existe pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale, etc. Il me semble que, dans une société comme la nôtre, dit Foucault, la vraie tâche politique est de critiquer le jeu des institutions apparemment neutres et indépendantes, de les critiquer et de les attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en elles soit démasquée et qu'on puisse lutter contre elles. Voilà. Bigre. Donc il s'agit de démasquer les institutions et les réseaux de pouvoir, y compris et peut-être surtout lorsqu'ils ne se présentent pas comme tels. Donc ce qui fait la séduction, au fond, quand même, de la pensée de Foucault, il me semble que c'est ce point-là. C'est-à-dire que l'idée de Foucault, c'est que les sociétés sont traversées par des réseaux de pouvoir, d'individus, de classes, les unes sur les autres, mais que ces liens de pouvoir et ce système de pouvoir-là, il est pas forcément là où on s'attendrait à ce qu'il soit. C'est-à-dire que, oui, il y a l'État, oui, il y a le capital, oui, il y a le grand patronat, oui, il y a tout ça, mais il y a aussi plein d'autres choses, c'est-à-dire tout un jeu d'institutions. Alors voilà, il dit l'école, la famille, on pourrait décliner, hein, la prison, bien entendu, mais aussi la psychiatrie, c'est des thèmes qu'il a beaucoup travaillé, tout ça... D'après Foucault, ce sont en quelque sorte des nœuds dans ce réseau de pouvoir qui structure la vie sociale. Et on doit y être attentif, et peut-être même encore plus attentif, hein, dans certaines formules de Foucault, que lorsqu'on est face à des institutions qui sont ouvertement, en quelque sorte, des institutions de pouvoir, l'État, l'armée, l'Église, etc. Donc, à la limite, il faut qu'on soit d'autant plus méfiant quand le pouvoir se cache et lorsqu'il est, d'une certaine manière, assumé de manière claire par tout un chacun, parce qu'on se dit qu'après tout, c'est des institutions qui ont leur utilité et qui ne sont pas en quelque sorte identifiées comme des instruments de pouvoir. Alors, ce qu'il y a de séduisant là-dedans,
oui, c'est-à-dire que plutôt que de s'intéresser uniquement, mettons, à l'État ou au capital, il faut étudier, pour Foucault, si vous voulez, le rapport qui peut exister, mettons, entre un professeur et son élève. Étudier le rapport qu'il peut y avoir entre un médecin et son patient. Et plus largement, étudier la façon dont va être organisée la scolarité des enfants dans un pays où le parcours des malades dans un hôpital. Parce que pour lui, c'est là que finalement vont se jouer énormément de choses qui sont essentielles pour comprendre les rapports de pouvoir qui existent dans notre société. Et finalement, on peut tout à fait comprendre, si on se base sur le 19e siècle, on peut tout à fait comprendre l'usine, la prison, l'hôpital, l'école, ou les asiles, sur le même schéma. Qui va être un schéma de classification, de contrôle, de mise en concurrence, éventuellement, et ainsi de suite. Et de vision panoptique, essayer de voir tout le monde, en même temps, à peu près. Et c'est pour ça que l'architecture des écoles, de ce point de vue-là, est assez intéressante. Si vous allez dans un lycée, vous verrez qu'il n'est pas trop récent.
Ça dépend des lycées,
mais bon, il y a des lycées récents qui ne sont pas comme ça. Mais vous en avez d'autres qui sont construits comme des prisons, mais littéralement. Ce qui pose d'autres problèmes, d'ailleurs, parce que parfois, il n'y a pas de rambarde pour qu'on puisse surveiller l'étage d'en dessous. Mais ce qui fait que, bon, vous avez certains gamins qui s'amusent à faire les singes d'une rambarde à l'autre, ce qui, évidemment, ennuie beaucoup les surveillants. C'est marrant en même temps. Mais donc, il y a de ça chez Foucault. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser à ce qu'il appelle les micro-pouvoirs, sachant que ce qui définit que la définition du pouvoir chez Foucault est assez vague, parce que pour lui, est pouvoir tout ce qui relève du rapport de force. Dès que vous avez deux forces en rapport, vous avez un rapport de pouvoir. Ce qui, soit dit en passant, me fait me demander que... Enfin, explique aussi pourquoi Foucault est absolument incapable de parler de l'égalité. Étant donné que pour lui, il n'y a que des rapports de force et que les forces sont des différentiels, il ne peut pas y avoir d'égalité. C'est pour ça que j'ai du mal à dire que Foucault est un libertaire, entre autres. Parce qu'il n'y a aucune pensée de l'égalité chez lui, il ne peut pas y en avoir.
Non, mais t'arrêtes, je suis assez d'accord avec ça. C'est exactement ce que tu viens de décrire, hein, effectivement, qui est le programme ou l'aspect politique des recherches de Foucault, correspond exactement à ce que tu viens de décrire là. Alors, très souvent, on considère que, au fond, ce programme un petit peu d'analyse critique globale des institutions, des micro-pouvoirs, etc., a quelque chose de très foucaldien, de très français, parfois, dans certaines analyses. Ce qui est intéressant, il me semble, c'est la réponse que fait Chomsky à la manière dont Foucault présente ses aspects politiques de ses recherches. Chomsky répond oui. Je suis certainement d'accord avec cela. Je suis certainement d'accord avec cela, non seulement dans la théorie, mais aussi dans l'action. Il existe deux tâches intellectuelles, explique Chomsky. Celle dont je parlais, qui consiste à essayer de créer une vision d'une société future juste, à créer une théorie sociale humanitaire fondée, si possible, sur un concept solide de l'essence de la nature humaine, c'est la première tâche, dit Chomsky. Et ensuite, la seconde consiste à comprendre clairement la nature du pouvoir, de l'oppression, de la terreur et de la destruction dans notre propre société. Cela inclut certainement les institutions que vous avez mentionnées, au même titre que les institutions centrales de toute société industrielle, à savoir les établissements économiques, financiers et commerciaux, et dans la période à venir, les grandes multinationales, qui ce soir ne sont pas très éloignées de nous, entre parenthèses, Philips à Eindhoven, puisque la conférence a lieu à Eindhoven. Alors, j'aime assez cette réponse-là, parce que Chomsky n'est pas du tout impressionné, au fond, par le décalage subtil qui est le plus souvent attribué aux analyses de Foucault. Chomsky trouve ça, parfaitement légitime de travailler comme le fait Foucault à une analyse précise, détaillée, documentée, historiquement, sur les institutions, les réseaux de pouvoir, où qu'ils se trouvent effectivement dans la vie sociale. Mais la manière dont il construit sa réponse, elle est typique, c'est-à-dire qu'il dit oui, je suis entièrement d'accord avec vous, et il faut le faire, et tout votre travail est parfaitement intéressant. Et en même temps, il commence par dire que la première des tâches, c'est bien celle que lui se reconnaît, c'est-à-dire que cette analyse-là, elle a de sens aux yeux de Chomsky, qu'à partir du moment où elle sert, hein, d'une certaine manière, à travailler, hein, à un engagement en vue d'une société qui, justement, serait en quelque sorte capable de limiter au maximum ce type de rapport de force ou de pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut une perspective, dit Chomsky, il faut une perspective, et cette perspective, bah, le mieux, c'est effectivement encore de l'appuyer sur ce qu'on a tous en commun, qui permet, pour le coup, de parler d'une égalité possible entre les individus. Et ce qu'on a en commun, c'est la nature humaine. Voilà. Donc, effectivement, la manière dont Chomsky procède ici, elle est assez claire du point de vue de son fonctionnement, il me semble.
Et retorse.
Eh bien oui, elle est peut-être un peu plus... En tout cas, elle est plus rigoureuse que la naïveté qu'on attribue habituellement à Chomsky. C'est-à-dire que...
Non, il y a un petit côté retort, du genre... Ce que vous faites, c'est très très bien, oui. Mais ce que je fais, c'est quand même la base.
C'est la base et c'est surtout plus complet. C'est surtout plus complet. C'est surtout plus complet. Et Chomsky argumente, en fait, à y regarder de près, il argumente toujours de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il écoute son contradicteur et il lui répond. Voilà, c'est-à-dire que...
pour nos éditeurs, quand même, précisons que les débats entre philosophes ne se passent habituellement pas comme ça.
Non, habituellement, c'est habituellement le débat philosophique par tradition. Oui, c'est un dialogue de sourds. Donc,
ou un dialogue byzantin.
Ou un dialogue byzantin. Bon, là, il me semble que Chomsky n'est ni sourd ni byzantin. Il argumente. Et ça donne donc des échanges qui sont, me semble-t-il, très intéressants. Alors donc, ça c'est le premier aspect donc sur les divergences un peu philosophiques ou générales, on va dire, hein, qu'on trouve entre Foucault et Chomsky sur cette notion de nature humaine, sur du coup ce que ça implique en termes de résistance au pouvoir, sur la manière dont ils conçoivent aussi évidemment donc l'analyse politique l'un comme l'autre. Il y a ensuite on va en parler un développement qui me semble alors là pour le coup vraiment au cœur de la discussion et qui porte sur la notion de justice. Et
on va faire une
petite pause là-dessus parce qu'il me semble que ça vaut le coup d'y.
Voilà, on a fini un thème, donc on va mettre un peu de musique et aborder un nouveau thème après la musique. Donc là, je crois que c'est un groupe français, qui se connaît parce que vu le nom, on s'appelle Cheveux. Avec un nom bien absurde. Enfin, avec José, on s'était un moment interrogé sur la possibilité de trouver un groupe dont le nom ne serait absolument pas significatif de quoi que ce soit. José est arrivé à Peigne, je crois, mais là il y a Cheveux, donc c'est complémentaire. Et le titre, c'est Impossible is not French. Écoutez Radio Libertaire, 89.4, la radio sans dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir, donc pour notre troisième et sans doute dernière partie de l'émission bimensuelle. Vous venez d'écouter le groupe Cheveux, Impossible is not French. Alors contrairement à la chanson précédente, je ne pourrais pas vous raconter le contenu de cette chanson parce qu'il n'est pas certain qu'il y ait un contenu. Peut-être que les membres de Cheveux pourront nous le préciser si jamais ils nous écoutent. Mais bon, on peut avoir des doutes. Voilà, donc maintenant nous allons poursuivre l'exposition pour vous essayer de vous donner l'envie de le lire. L'exposition donc du débat entre Chomsky et Foucault, donc dans un livre édité chez Aden qui s'intitule Sur la nature humaine. et qui est assez intéressant puisqu'on voit l'opposition de deux styles de pensée et de deux styles de pensée qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent nous intéresser ou peuvent intéresser les ceux qui s'intéressent aux théories libertaires. Même si je maintiens fermement que Foucault ne peut pas être un libertaire, j'admets aussi qu'on peut tout à fait utiliser ses bouquins dans une optique libertaire. Je suis grand prince ce soir.
Donc, t'es presque laxiste, en fait.
Je suis presque laxiste, ouais. Mais bon, écoute, hein. Quand tu parles de Chomsky, on entend Bakounine derrière, à la limite. Foucault, c'est quelque chose du quartier latin, mais on ne sait pas trop quoi exactement. Donc, pourquoi pas, hein. Mais les choses sans origine me plaisent aussi. Mais bon, voilà. Donc, et maintenant, on va aborder un thème assez important, quand même, je crois. C'est la justice. Et donc, l'opposition, j'imagine, de Foucault et de Chomsky, parce que je vois très très mal, d'après ce que j'ai pu lire de Foucault, comment il peut même prononcer le mot justice.
Ah ben justement, c'est ce qu'il reproche, hein, c'est ce qu'il va reprocher à Chomsky. Mmh. Alors, ça c'est une partie, tout à l'heure je disais que ça me semble être au cœur du débat entre les deux. C'est une partie qui est abordée donc à la fin de la discussion, mais qui est développée de manière assez conséquente. Ça permet à l'un comme à l'autre de développer des arguments qui précisent vraiment leur approche de cette question-là. Ça part au fond. Il y a un animateur du débat. Alors, c'est assez drôle d'ailleurs parce que l'animateur, donc coincé entre Chomsky et Foucault, autant dire que bon, personne n'aurait aimé trop être à sa place. Donc il renvoie la balle comme il peut. Foucault est absolument mais terrible avec lui, c'est-à-dire que systématiquement il lui explique qu'au fond il comprend pas les questions qu'il lui pose. Bref, bon, enfin c'est un côté assez marrant. C'est vrai que bon, en vidéo ça rend encore plus, parce que bon, systématiquement donc Foucault le regarde de loin avec un air un petit peu perplexe en grattant son crâne chauve. Et voilà, donc c'est assez drôle. Mais donc l'animateur du débat, donc un peu coincé entre les deux poids lourds, là, à un moment les interroge l'un comme l'autre sur leurs engagements militants politique du moment, hein. Donc on est en 71 et donc Foucault, et voilà, il est 71, je suis pas, il doit commencer à avoir une lisibilité en termes d'engagement politique, hein. Je sais plus de quand date la fondation du GIP, là. Ça doit être ces années-là.
Foucault en fait n'a commencé à s'investir politiquement de façon concrète que quelques 2-3 ans après 68.
Exactement, exactement.
Et lui, comme beaucoup d'autres intellectuels français, était complètement à l'ouest du point de vue politique avant 68.
Absolument. Ce qui est pas du tout le cas de Chomsky, hein, qui lui est engagé donc dans le mouvement des droits civiques qui démarre pendant toutes les années 60 aux États-Unis, hein. Donc c'est contre la guerre au Vietnam, pour l'égalité des droits.
Et d'ailleurs, Chomsky avait été très très loin. À l'université dans laquelle il travaillait, il avait proposé au MIT, Massachusetts Institute of Technology.
C'est ça.
Donc l'Institut de technologie du Massachusetts. Il avait carrément proposé, quand même, en pleine guerre du Vietnam, pour la formation politique des étudiants, qui était une des questions posées par les huiles de l'université. Il disait qu'il faudrait organiser des réunions avec le Viet Cong.
Absolument.
Et que comme l'université, comme le MIT avait des locaux à Paris, on pourrait tout à fait organiser des débats entre les Américains et les membres du Viet Cong.
Absolument. Mais bon. Et le tout dans une perspective qu'il faut prendre, pas complètement au premier degré, mais qui est pas de l'ordre de la provocation, on a pas Chomsky. C'est qu'effectivement, on doit pouvoir, si effectivement on est dans le cadre d'une formation politique rationnelle, eh bien, on doit pouvoir discuter. On doit pouvoir discuter. Donc, il y a pas de, voilà, ami ennemi, c'est pas quelque chose qui a de la valeur, hein, dans le cadre d'une formation rationnelle. On est entre êtres humains, entre sujets parlants, on doit pouvoir discuter. Et c'est donc, alors c'est pas directement sur cette initiative-là qu'il intervient, mais sur la notion de désobéissance civile. Alors, la notion de désobéissance civile, qui est évidemment au cœur du mouvement des droits civiques aux États-Unis, qui est aussi très importante et très, très identitaire, d'une certaine manière, dans le mouvement libertaire américain, puisque donc, c'est la notion élaborée par Thoreau, au 19e.
Thoreau qui avait refusé donc de payer ses impôts, parce que les impôts finançaient en partie la guerre menée contre le Mexique.
Qui était déjà donc les prémices de l'impérialisme américain, et donc
qui était une des manifestations de l'impérialisme américain, puisque c'est le moment où finalement les États-Unis ont pris c'est pas la Californie, c'est une...
Oui, bah il y a l'annexion de toutes les
c'est
les
l'annexion de terres mexicaines maintenant sont américaines, mais qui ne l'étaient pas au 19e siècle.
Tout à fait. Et donc, la notion de désobéissance civile, elle est intéressante parce que l'argument que Taureau avance pour justement refuser de payer ses impôts et qu'il va faire connaître, puisqu'il entame à la suite de ça une tournée de conférences partout aux États-Unis, ça consiste à s'appuyer sur la Constitution américaine elle-même, c'est-à-dire à montrer que, d'une certaine manière, l'État, par cette politique impérialiste, transgresse ses propres règles, ses propres lois fondamentales, à savoir la Constitution américaine, qui doit assurer, effectivement, en principe, enfin, qui doit garantir le fait que l'État est au service de l'intérêt général, de tous les citoyens. Une politique impérialiste est contraire à cette donnée, à ce programme constitutionnel aux États-Unis. Et donc, Taureau s'appuie sur la Constitution américaine pour contester, au fond, les lois de programmation militaire et les lois d'annexion et les impôts et la conscription qui va avec la politique impérialiste américaine. Donc, c'est une manière de se situer à l'intérieur même, en quelque sorte, du droit américain. C'est pas du droit américain pour opposer le droit à l'action de l'État. Et ça, c'est fondamental pour penser les actions de désobéissance civile. Il y a toujours, enfin, le plus souvent en tout cas, une revendication qui s'appuie éventuellement sur le droit. Et Chomsky est très, 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 très familier et très attaché à ce type de militantisme. Ce qui ne veut pas dire que c'est un militantisme naïf ou gentil, où il s'agit de faire des sittings en disant ce que vous faites est illégal. Non, la désobéissance civile, ça peut consister à faire dérailler des trains qui amènent des armes pour la guerre au Vietnam. Il y a eu des initiatives de ce type-là aux États-Unis. Donc c'est le type de justification qui caractérise la désobéissance civile.
Et pas le type d'action. Parce que c'est des actions qui peuvent aller très très loin.
Tout à fait. Et c'est vraiment dans ce cadre de activiste-là que pense Chomsky et qui s'inscrit. Et Foucault lui dit, d'une certaine manière, lui oppose le fait que de cette manière-là, on est obligé toujours de s'en référer à une espèce de notion de justice abstraite, au fond. C'est-à-dire qu'on considère que ce que l'État fait est injuste. Chomsky va même jusqu'à dire que la désobéissance civile, elle intervient lorsque l'État fait quelque chose d'illégal.
Ce qui est très différent d'injuste.
Qui est très différent parce que Chomsky pousse les choses très loin. Alors je sais pas, là il y a des questions de peut-être de traduction, c'est-à-dire que habituellement ce qu'on distingue c'est ce qui est légal et ce qui est légitime. Donc quand l'État a une action qui est considérée ou une activité qui est considérée comme illégitime, effectivement, ça justifierait la désobéissance civile et on oppose donc la légitimité à la légalité. Voilà. Mais je sais pas, il faudrait regarder quel est le terme utilisé en anglais, mais Chomsky utilise carrément le terme d'illégal, c'est-à-dire l'État. Il arrive que l'État se mette lui-même dans l'illégalité. Oui. Dans le cas d'une action comme l'invasion impérialiste du Mexique, on a quelque chose de cet ordre-là, puisque l'État se met en contradiction avec sa propre constitution. Donc on est bien dans l'illégalité. Oui. On est bien dans l'illégalité. Et c'est vrai au moment de la guerre du Vietnam, d'après Chomsky, et ça justifie donc le fait qu'à partir du moment où l'État se met dans l'illégalité, c'est aux citoyens de lui rappeler la légalité. Et de lui rappeler effectivement la légalité, et ce qui est juste, y compris d'un point de vue légal. Alors évidemment, Foucault commence à tiquer, évidemment.
Il s'arracherait les cheveux s'il en avait.
Il n'y a plus de cheveux, mais il pose la question à Chomsky, il lui dit « Oui, mais je voudrais vous poser une question. Aux États-Unis, lorsque vous commettez un acte illégal, c'est page 60, est-ce que vous le justifiez en fonction d'une justice idéale ou d'une légalité supérieure ou par la nécessité de la lutte des classes, parce que c'est essentiel à ce moment-là pour le prolétariat dans sa lutte contre la classe dominante. » Autrement dit, la question que pose Foucault à Chomsky, c'est de dire, mais qu'est-ce qui vous pousse dans ce cas-là, effectivement, à désobéir? Est-ce que vous revendiquez une espèce de justice idéale un petit peu abstraite, ou est-ce simplement une décision qui est une décision tactique? C'est-à-dire, est-ce que, à ce moment-là, dans la lutte de classe entre le prolétariat et l'État, eh bien, c'est utile, pas juste, mais utile pour le prolétariat d'agir de cette manière-là.
Ce n'est pas un débat entre Marx et Bakounine, hein. C'est un débat entre Foucault,
entre Foucault et Chomsky.
Faut préciser quand même, parce que les derniers termes qui ont été employés pourraient faire douter des choses.
Oui, mais on est là-dedans. Et alors, Chomsky lui répond, il y a une interprétation de la loi et du droit qui est très différente chez les deux. C'est-à-dire que Chomsky lui dit, dans une très large mesure, la loi existante représente bien certaines valeurs humaines respectables et correctement interprétée. Cette loi permet de contourner les commandements de l'État. Je pense qu'il était important d'exploiter ce fait. C'est-à-dire que, d'après Chomsky, il faut avoir une approche qui est nuancée, ou en tout cas ou dialectique, comme disent certains, du droit. C'est-à-dire que dans le droit, il y a des principes qui sont conformes à la nature humaine, il y a des aspirations qui ont réussi, on a marqué des points. La nature humaine et la liberté et les droits ont marqué des points dans le droit.
Bien sûr que si on prend les droits de l'homme au sérieux,
tout à fait.
Par exemple, on révolutionne à mon avis à peu près tout ce qui existe en France. Hein,
tout à fait, tout à fait. Donc il continue, donc je pense qu'il est important d'exploiter ce fait et d'exploiter les domaines de la loi qui sont correctement définis et ensuite peut-être agir directement contre ceux qui ne font que ratifier un système de pouvoir.
Après, là, Foucault va, j'imagine, s'insurger contre l'expression correctement définie.
Eh bien, réponse de question de Foucault, commettez-vous cet acte en vertu d'une idée de la justice ou parce que la lutte des classes la rend utile ou nécessaire? Vous référez-vous à une justice idéale? C'est cela mon problème. On voit bien que Foucault ne veut pas entendre parler d'une idée de justice parce que d'après lui, l'idée de justice, elle est toujours pensée et conçue à l'intérieur d'un cadre historique donné. Et en l'occurrence, ce qui va lâcher la fille par lâcher le morceau.
Il n'y a pas que ça, c'est que dans Surveiller et punir, il dit très clairement que pour lui, le droit, tout le système juridique, n'est que finalement, on pourrait dire, la mousse des rapports de force.
Oui,
vous avez la bière, vous avez la mousse. Bon, dans une société, vous avez les rapports de force, c'est la bière, vous avez le droit, c'est la mousse. C'est tout. Donc, le droit ne l'intéresse absolument pas.
Et le droit est un instrument de pouvoir par définition. Voilà. Donc il développe, par exemple, plutôt que de penser à la lutte sociale en termes de justice, il faut mettre l'accent sur la justice en termes de lutte sociale. Bon. Chomsky, donc, il continue ensuite en lui disant... Je vous répondrai dans les termes de Spinoza, je vous dirais que le prolétariat ne fait pas la guerre à la classe dirigeante parce qu'il considère que cette guerre est juste. Le prolétariat fait la guerre à la classe dirigeante parce que pour la première fois dans l'histoire, il veut prendre le pouvoir.
Qui dit ça ?
Foucault, bien entendu.
Oui.
Et parce qu'il veut renverser le pouvoir de la classe dirigeante, il considère que cette guerre est juste. Chomsky, je ne suis pas d'accord.
Oui.
Foucault, on fait la guerre pour gagner et non parce qu'elle est juste. Chomsky, personnellement, je ne suis pas d'accord. Par exemple, si j'arrivais à me convaincre que l'accession du prolétariat au pouvoir risque de conduire à un état policier terroriste où la liberté, la dignité et relations humaines convenables disparaîtront, j'essaierais de l'empêcher. Je pense que la seule raison d'espérer un tel événement est de croire, à tort ou à raison, que des valeurs humaines fondamentales peuvent bénéficier de ce transfert de pouvoir. Réponse de Foucault, quand le prolétariat prendra le pouvoir, il se peut qu'il exerce à l'égard des classes dont il vient de triompher un pouvoir violent, dictatorial et même sanglant. Je ne vois pas quelle objection on peut faire à cela. Je ne vois pas quelle objection on peut faire à cela, dit Foucault. Chomsky, cette théorie de la révolution ne me satisfait pas pour une quantité de raisons, historiques ou non. Je suis très sceptique quant à une dictature violente et sanglante du prolétariat, surtout lorsqu'elle est... C'est en ça qu'il est... Là, il est retort. Surtout, dit Chomsky, lorsqu'elle est exprimée par des représentants autodésignés d'un parti d'avant-garde qui, nous en avons l'expérience historique suffisante pour le savoir et le prédire, seront simplement les nouveaux dirigeants de cette société. Alors, c'est pas directement tourné contre Foucault, mais ça pourrait être lu comme ça.
Surtout quand on connaît un petit peu. Il faut savoir que Foucault, dans les années 70, en particulier dans ces années-là, fréquentait pas mal les gens de la GP, de la gauche prolétarienne.
Bien entendu.
Donc, vous avez Benny Lévy, vous en avez tout un tas de gens qui étaient quand même, des autocrates en germe, assez, à mon avis, assez caractérisés. Hein. Faut pas se leurrer. Moi, c'est ce qui m'intéresse. On va peut-être bientôt s'interrompre parce que il nous reste sur le morceau de 3 minutes. Il nous reste 4 minutes. Il est 26.
Ouais.
Donc
peut-être
un dernier
extrait parce que c'est le point évidemment le point clé de la discussion. Ouais. Hein. Donc Foucault continue en disant il me semble que de toute façon la notion même de justice fonctionne à l'intérieur d'une société de classe comme une revendication faite par la classe opprimée comme la justification du côté des oppresseurs. Chomsky, je ne suis pas d'accord. Foucault continue, et dans une société sans classe, je ne suis pas sûr qu'on ait encore à utiliser cette notion de justice. Chomsky, là je ne suis pas d'accord du tout. Je pense qu'il existe une sorte de base absolue, dit Chomsky, si vous insistez je vais me trouver dans une situation difficile parce que je ne peux pas la développer clairement, résidant finalement dans les qualités humaines fondamentales sur lesquelles se fonde une vraie notion de justice. Donc on a vraiment, si vous voulez, il me semble le cœur de l'opposition entre les deux. Et cette notion de justice fait affleurer ça de manière très claire, quoi. C'est-à-dire que d'après Foucault, on peut pas en quelque sorte sortir d'un système de rapport de force quel qu'il soit, et effectivement ce qui se joue à l'intérieur d'un rapport de force, c'est la victoire. Et la victoire, elle implique de penser en termes d'utilité, de stratégie, pas de justice. Et le problème d'après Chomsky, c'est que si on réfléchit comme ça, il n'y a aucune manière de justifier d'un point de vue
mais on en revient à ce que je disais, c'est que je l'avais pas lu, mais ça m'intéresse beaucoup, je fais sans doute le lire, c'est que Foucault ne peut absolument pas considérer comme libertaire. C'est un marxiste pur et dur dans ce truc-là.
Oui.
Tout ce qui compte, c'est les stratégies à mettre en place pour prendre le pouvoir.
Absolument.
Peu importe les moyens, ce qui compte, c'est le pouvoir.
Absolument. Absolument.
Donc ouais. C'est clair.
Ouais, c'est assez clair et ça me paraît intéressant encore une fois de voir la manière lorsqu'ils se retrouvent face à face, de voir la manière dont ces deux penseurs-là qui peuvent servir de référence très souvent dans les milieux libertaires justement développent des arguments parce qu'il me semble qu'il y a ici des lignes de fracture qui sont assez éclairantes.
En étant dire que Foucault est marxiste, ça va sans doute faire hurler certains foucauliens, sachant que Foucault est l'un des rares intellectuels français à n'avoir jamais adhéré au Parti communiste et avoir pilonné les marxistes de façon assez terrible du plan théorique. Mais il reste intéressant de remarquer que sur le plan pratique, quand même, il est tout à fait prêt à rallier nos dignes maniganciers marxistes et les partis d'avant-garde.
Hein, parce qu'il
y a un petit peu de ça.
Voilà, donc c'était Sur la nature humaine de Noam Chomsky et Michel Foucault, les éditions ADN. Édité en 2006.
C'est Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4. Donc nous vous laissons avec un petit morceau d'un groupe expérimental américain qui existe depuis les années 70 et qui s'intitule, et c'est très très bien après tout ce dont nous avons parlé sur la révolution, Don't Be Cruel, Ne Soyez Pas Cruel, de Resident.
Baby, and I know that I got you. No!